les gens veulent la bénédiction. Les chrétiens charnels, même les inconvertis, sont intéressés par la bénédiction. Tout le monde est intéressé par la bénédiction, soyons intelligents. Tout le monde n'est pas contrarié lorsqu'il est béni. Vous êtes d'accord avec moi? On aime la bénédiction. Je ne parle pas de la bénédiction. L'homme naturel, il est intéressé par la bénédiction, mais il n'est pas intéressé par les choses de Dieu. De toute façon, il ne peut pas les comprendre. C'est à cause de la chute, je ne vais pas expliquer la chute, mais c'est la chute qui a coupé la communion avec Dieu, qui a éloigné l'homme de Dieu. Et tant que l'homme, je résume la dernière fois, n'est pas passé par la nouvelle naissance, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Il peut les accepter, puis dire oui, c'est dans la Bible, donc ça doit tenir debout, c'est dans la Bible, mais il ne peut pas les comprendre. Il va entendre, chercher d'abord le royaume de Dieu. Il va dire, oui, il faut chercher quelque chose. Il faut aller à l'église. Tiens, je vais à l'église tous les dimanches. Ça doit être ça, chercher le royaume de Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau, il sait très bien que ce n'est pas ça, chercher le royaume de Dieu. Vous pouvez lire votre Bible, vous pouvez aller à l'église. Ce n'est pas ça, chercher le royaume de Dieu. C'est vraiment chercher Dieu de tout son cœur et comprendre ce que dit la parole de Dieu. Voilà. Alors, tant qu'un homme ne se repent pas, et qu'un homme ne se convertit pas, il ne peut pas être une nouvelle créature. Il peut s'améliorer, il peut passer de l'immoralité à la moralité. On le voit, il y a beaucoup de gens dans le monde qui font des progrès extraordinaires au niveau de la moralité. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. S'ils devaient mourir dans la journée, et ils partiraient à l'enfer. Ils n'ont pas accepté le sang de Jésus-Christ. Ils ont une belle moralité, mais ils n'ont pas donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Donc notre esprit... Et vivant, il revient vivant, il redevient vivant lorsqu'il passe par la nouvelle naissance. Et lorsque l'apôtre Paul parle par exemple d'être assis dans les lieux célestes, c'est dans les Éphésiens, puisqu'on y est, on peut le lire, c'est dans les Éphésiens, lorsqu'il dit, voyez, Éphésiens 2:6. Je vous expliquerai ces choses dans les mardis qui suivent, dans les dimanches qui suivent. Voyez quand il est dit par exemple, au verset 5, Éphésiens 2:5, on va prendre des textes, notez-les pour que vous les méditiez, que vous les réfléchissiez. Éphésiens 2:5. Nous qui étions morts, quand on était païen, qu'est-ce que c'est qui était mort? Est-ce que vous mangiez quand vous étiez païen? Est-ce que vous mangiez votre conversion? Est-ce que vous aviez des sentiments avant votre conversion? Bien sûr. Donc ce n'est pas votre corps et ce n'est pas votre âme qui était mort, c'était votre esprit. Vous étiez mort, notre esprit était mort. Par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que vous vous rendez compte, cette expression, qui la comprend vraiment? Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous comprenez bien que ce n'est pas notre corps et notre âme qui peut être assis dans les lieux célestes. C'est notre esprit. L'âme et le corps n'ont rien à faire dans les lieux célestes, en tous les cas pour le moment. Vous comprenez? Mais c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous permet d'être dans cette phase de victoire. Je suis assis dans les choses spirituelles. Je suis dominé par les choses spirituelles. Quelqu'un de charnel, il peut le chanter tant qu'il voudra, mais il ne peut même pas le comprendre. Et je crois qu'en nous l'expliquant, en y avançant petit à petit, nous réaliserons si déjà nous sommes charnels ou si nous sommes spirituels. Parce qu'une des ruses du diable et une des ruses de la chair, c'est de nous amener à nous faire croire qu'on est spirituel quand on est charnel. Demandez aux chrétiens de l'Odyssée s'ils ne se sont pas fait piéger. Notre âme et notre corps ne sont pas régénérés à la conversion. Ça aussi, on le verra. Il n'y a que notre esprit qui, une fois régénéré, comprend les choses de Dieu, s'intéresse aux choses de Dieu. On l'a lu, il a été créé selon Dieu. On peut le relire. Regardez au verset 24. Il est créé selon Dieu, du chapitre 4. Voyez, c'est important de s'arrêter sur chaque mot presque. Voyez, alors c'est tout, verset 24. Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Parce qu'il est créé selon Dieu, notre esprit maintenant est à l'image de Dieu. Et c'est vrai que la question que l'on peut poser aujourd'hui dans les églises, mais comment avez-vous appris Christ? Le verset 20. C'est une question. Comment, que je pose à chacun de vous qui êtes baptisé d'eau ou baptisé en Christ? Là aussi, on en a parlé dans la doctrine. Vous savez qu'il y a plusieurs baptêmes. Comment avez-vous appris Christ? Est-ce que parce que vous êtes passé par le baptême d'eau, vous êtes vraiment passé par la conversion? Vous comprenez? Comment avez-vous appris Christ? C'est des questions très sérieuses. Nous voulons voir Dieu confirmer sa parole. C'est bien ça que j'entends de temps en temps. C'est bien ça que je comprends quand vous dites, Seigneur, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des délivrances. C'est bien comme ça que vous priez. C'est comme ça que j'entends vos prières. Est-ce qu'elles sont dans la volonté de Dieu? Bien sûr. Si je suis bien au courant des prières que vous faites monter vers Dieu, dites-vous bien, disons-nous bien, que ça ne se fera pas comme ça, parce qu'on a envie, ça se fera d'une manière spirituelle. Si la Bible nous parle, ce texte, et celui que nous venons de lire dans les Colossiens, nous parle du vieil homme et du nouvel homme, il faut le comprendre. Et je suis malheureux de voir que c'est certainement moi qui n'ai pas suffisamment enseigné ces choses. Nous aurions déjà fait davantage de progrès si je m'étais appliqué à vous expliquer ces choses bien avant. J'en suis profondément conscient que ça m'incombe à moi également. Le vieil homme, c'est quoi le vieil homme? Le vieil homme, c'est la partie de notre être qui n'a pas été régénérée à la nouvelle naissance. Il s'agit de l'âme et du corps dans lequel habite la loi du péché. Ça aussi, on y reviendra. Je ne peux pas tout vous dire en même temps. Donc, la marche par l'esprit, c'est quoi? Puisqu'il est dit, marcher par l'esprit. Vous êtes d'accord, c'est écrit. Marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand on voit toutes les victoires, toutes les bénédictions, les délivrances, toute l'œuvre de Dieu, de l'évangélisation à l'édification, toute l'œuvre de Dieu passe par la vie de l'esprit. On le sait. La chair ne sert à rien. Donc il faudra qu'on explique ce que c'est la chair, parce que la chair est souvent très religieuse, croyez-moi, on le partagera. Donc, la marche par l'esprit consiste à apprendre de Christ, c'est pour ça qu'il dit, mais comment vous avez appris Christ, à se dépouiller du vieil homme et à se revêtir de l'homme nouveau. Mais ça, il faut l'expliquer. Parce que quand même, nous sommes convertis depuis combien de temps? 5 ans? 10 ans? 15 ans? 30 ans plus? Et est-ce que nous avons compris cela? Et honte à nous si nous avons des décennies de conversion et que nous n'ayons pas quand même, vous êtes d'accord avec moi, que nous n'ayons pas suffisamment développé la vie de l'esprit. Quelqu'un qui a un an ou deux ou trois ans de conversion, il a tout à apprendre. Mais quand nous avons 20 ans, 30 ans de conversion, est-ce que nous n'aurions pas dû quand même davantage prendre ces choses au sérieux? Comment ça se passe? Il faut qu'on l'explique. C'est pour ça que je le répète, c'est sérieux, c'est pas de la publicité. Tout ça sera sur un MP3. Il y aura 10, 15, 20 prédications et je crois qu'il faudra que nous nous appliquions à le méditer pour comprendre ces choses. Cet homme nouveau, il a été créé, il est en nous, à la nouvelle naissance. Si vraiment vous avez pleuré sur vos péchés, si vraiment vous avez pleuré, pas pleuré forcément avec des larmes, mais si vous avez été convaincu, si vous avez dit, oh c'est mon péché qui a crucifié le Seigneur Jésus, ah, c'est à cause de mon péché qu'il est mort sur la croix, je veux me repentir, pas regretter juste le mal que j'ai fait parce que ça ne plaît pas tout le monde, mais vraiment me repentir devant Dieu, confesser mes péchés à Dieu, accepter son sang précieux qui me couvre et qui me lave, accepter son sacrifice, etc. Et sa parole, je nais de nouveau. On le sait quand on est une nouvelle créature. On le sait. Des fois, quelqu'un me dit, mais je ne sais pas si je suis né de nouveau. Ce qu'il n'est pas. Quand on l'est, on le sait. Vous ne croyez pas? Quand vous êtes dehors, qu'il fait moins 20, que vous entrez dans une pièce chauffée où il fait 25, vous dites, je ne sais pas si je suis encore dehors. Vous le savez que vous êtes rentré, je vous le dis. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand on est passé des ténèbres à la lumière, on le sait. On le sait, on a vécu quelque chose, on a une assurance, on a une conviction profonde, on le sait. Si vous n'avez pas cette conviction, il y a un vrai problème au niveau de votre nouvelle naissance. Je ne dis pas que vous n'avez pas fait d'expérience, je ne dis pas que Dieu ne vous a pas béni. Je parle de cette nouvelle naissance qui est le point de départ de la vie de l'esprit. Et comment nous l'avons appris? Si vous l'avez mal appris, c'est nous qu'on vous l'a mal appris peut-être. C'est chacun de nous qui n'avons pas été suffisamment sérieux. Notre âme et notre corps, donc, n'ont pas été régénérés à la nouvelle naissance. Donc, ils restent attachés aux choses d'en bas, aux choses de la terre. Ça aurait été bien si le Seigneur nous en avait débarrassé à la conversion. Ça aurait été bien si le vieil homme, Dieu l'avait étouffé à la conversion. Ça aurait été bien? Est-ce que ça aurait été bien? Ouais, mais écoutez, vous lui demanderez pourquoi, mais moi je vous dis une chose, il est là. Et c'est lui ou lui qui domine, ou c'est l'esprit qui domine. Et ça, c'est une affaire sérieuse qu'on ne peut pas présenter en 3 ou 4 prédications. Il va falloir l'expliquer plus sérieusement. Si on n'est pas arrivé à la vie de l'esprit, si on a été ignorant des choses, c'est qu'elles ne nous ont pas été assez suffisamment enseignées. Vous êtes d'accord avec moi ? Voilà. Donc c'est une chose à faire. Je le redis pour rassurer tout le monde, peut-être qu'on n'a pas avancé dans ces choses, parce que comme dans chaque réunion, il y a des inconvertis, moi je me suis dit, mais ils vont rien comprendre. Mais c'est vrai, ils ne veulent pas comprendre ces choses. Mais ça ne fait rien, il faut que l'Église avance. Il faut que l'Église avance, croyez-moi. Oui, notre corps et notre âme ne sont pas régénérés à la nouvelle naissance. Ils restent attachés aux choses de la terre. Ce n'est qu'à l'enlèvement, à la résurrection, qu'ils subiront une totale transformation. On peut le lire pour ceux qui... Parce qu'il y a des chrétiens encore qui se demandent si le corps ressuscitera. Un chrétien de 7 ou 8 ans de conversion m'a dit, mais non, les corps, l'âme, tout ça, c'est dans la terre. Quelqu'un dernièrement me disait, mais monsieur Gou, quand quelqu'un meurt, il est dans le tombeau. Comment, je ne comprenais pas. Mais quand quelqu'un meurt, son esprit va à Dieu. Le corps va à la terre. Mais le corps, lisons-le ensemble, je crois que c'est important de le lire, c'est dans 1 Corinthiens au chapitre 15, c'est important, ça donne énormément d'espérance. Je ne sais pas si vous croyez à la résurrection des corps, mais il y a des chrétiens qui n'y croient pas. Ils n'y croient pas, alors c'est, voilà. Comment un chrétien ne peut-il pas croire ce que nous allons lire ? 1 Corinthiens 15, qui c'est qui a raison ? Le chrétien qui ne croit pas ou Dieu qui a enseigné ça ? 1 Corinthiens chapitre 15, ça fait presque sourire, mais quand même il y a des chrétiens qui ne le croient pas. Ils ne croient pas à la résurrection des corps. 1 Corinthiens, qu'est-ce que c'est pour Dieu ? Qu'est-ce que c'est ? 1 Corinthiens 15, 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Car, regardez bien, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, etc., etc. Oui, notre corps, il n'est pas régénéré, mais il le sera un jour. Un jour, on aura un corps glorifié. Ça vous intéresse, un corps ? Je ne sais pas si vous vous imaginez comment sera notre corps. Il sera exactement comme le corps de Jésus le jour de la résurrection. Alléluia. Un corps plus de rhumatisme, plus besoin de doliprane, etc. Ça sera terminé. Que le nom de Dieu soit béni. Un corps parfait. Et en plus, ça va durer quand même longtemps, cette affaire. Qu'est-ce que ça va être pour l'éternité ? Notre corps, donc, n'a pas été régénéré. Notre âme n'a pas été régénérée. Notre âme, c'est toute la partie psychique de notre être. Elle fonctionnait avant votre conversion. Avant la conversion, nous avions des sentiments, des émotions, de la volonté, des désirs, des affections. Vous vous rappelez ? Et aujourd'hui, des gens confondent cela. C'est pour ça que c'est un gros problème. Parce que toute notre vie, depuis notre naissance jusqu'à notre conversion, qui c'est qui a commandé ? C'est l'âme. Et pour faire le transfert, ça nécessite quand même une certaine compréhension. Voilà. Quand un chrétien ne vit pas dans l'esprit, c'est toujours son âme qui décide, ce sont ses émotions. Alors pour peu que la nouvelle naissance soit superficielle, que la conversion soit superficielle, il n'y aura jamais la vie de l'esprit. Et là, il y a une grande bataille entre la vie de l'esprit, entre l'âme et l'esprit. C'est un grand combat. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. L'âme, elle travaille toujours pour elle. Pour sa propre volonté, son égoïsme, ses intérêts personnels. Pourquoi il y a des chrétiens qui ne servent jamais Dieu ? Ils pensent qu'à eux. Alors, c'est écrit, tout ça, je n'invente rien, ce n'est pas des règlements de compte, je ne suis pas là. Mais Un chrétien, parfois, ne se rend même plus compte qu'il ne pense qu'à lui, parce que c'est son âme, avec toujours ses émotions, ses idées, sa sensiblerie, que lui interprète comme de la sensibilité à Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on est sensible à certaines choses qu'on est sensible aux choses de Dieu. Même avant notre conversion, nous étions sensibles à certaines choses. C'est pas pour ça qu'on est sensible aux choses de Dieu. Mais avant la conversion, c'est elle qui domine tout. Tout notre être, c'est elle qui décide, c'est notre identité, c'est notre caractère, nos affections, je le répète, nos sentiments, nos désirs, nos pensées, même nos pensées religieuses. On croyait en Dieu, plus ou moins, avant notre conversion. On allait des fois dans une église, on tranquillisait notre conscience en allant dans un lieu de culte. Il y en a qui le font, peut-être encore ce matin, il y en a parmi nous, qui vous êtes venus parce que vous pensez qu'en venant, vous êtes en communion avec Dieu. Mais vous n'avez aucune communion avec Dieu. Ça peut arriver. Est-ce que ça peut arriver ? Mais bien sûr que ça peut arriver. On va pas critiquer le catholique. Il y a dans toutes les églises du monde des hommes et des femmes qui vont à l'église, qui prennent la Sainte Cène ou la communion, comme vous voudrez, et parce qu'ils s'imaginent qu'ils sont en communion, parce qu'ils prennent le pain et le vin. Vous voyez, c'est ça là, le travail de l'âme. Elle nous fait croire que l'on peut être spirituel. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Oui, en tous les cas, c'est notre âme qui est notre véritable nature. Et qu'est-ce que Dieu veut à la nouvelle naissance ? Il veut que par la foi, en fonction de ce que dit la parole, que notre esprit prenne le relais. Il veut que ce soit la parole de Dieu qui commence à nous conduire. C'est pour cela qu'il faut que notre esprit soit en bonne santé. Est-ce qu'il nous est parlé d'un esprit fortifié ? Ben oui. Voyons, on peut attrister le Saint-Esprit. Quand on attriste le Saint-Esprit, est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit sera fortifié dans notre esprit ? Bien sûr que non. Hein ? Et on peut affaiblir le Saint-Esprit en nous. On peut l'éteindre. Et nous ne nous en rendons pas bien compte. Si l'âme, elle prend le relais d'une manière très charnelle, très, très puissante, il y a des gens qui ont une puissance de l'âme extraordinaire. Mais ce n'est pas de la spiritualité. Le résultat, il y est. C'est quand on voit le résultat, surtout, vous savez. Une fois, je me rappelle d'une situation, et la personne m'a dit, mais est-ce que vous avez regardé le résultat ? Parce que moi, j'avais dit à cette personne, vous avez vu comment c'est bien et tout. Et la personne m'a dit, mais vous avez vu le résultat. Et à une seconde, Dieu m'a montré le résultat. Catastrophique. Et il faut faire attention. En vérité, c'est le résultat qui détermine un petit peu, véritablement, qui sait qui domine. Et tout cela, il faut le comprendre. Il faut que notre esprit soit en bonne santé. Gardez le texte, dans Éphésiens, mais regardez dans Actes 14. Qu'est-ce qu'on voit dans Actes 14 ? De toute façon, si nous ne lisons pas la parole de Dieu, je vous le dis vraiment, si on ne lit pas la parole de Dieu, notre esprit ne peut pas se fortifier. Dans Actes 14, on le voit bien, c'est bien expliqué là. Regardez, verset 21. Actes 14, 21. « Quand ils eurent évangélisé cette ville, j'attends que vous y soyez, parce que c'est important. » Acte 14, 21. « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. » Regardez ce qu'ils font. « Ils fortifiant l'esprit des disciples. » Vous avez vu ?« Fortifiant l'esprit des disciples. » Alors bien sûr que marcher par l'esprit, ça ne veut pas dire qu'il faut tout supprimer. Écoutez bien. Tout supprimer de notre âme et de notre corps et qu'il va falloir s'enfermer toute notre vie. Certains l'ont fait, vous savez ce que ça a donné, vous avez vu le résultat. Ça ne veut pas dire ça du tout, on y reviendra plus précisément dans une autre étude. Cette marche par l'esprit ne supprime pas la vie de l'âme et ne supprime pas la vie du corps. Cette marche par l'esprit fait que c'est le Saint-Esprit qui gouverne notre âme et qui gouverne notre corps. Notre vieil homme, ne vous inquiétez pas, c'est la mauvaise nouvelle, vous l'aurez jusqu'à la fin. Jusqu'à votre dernier souffle, il vous faudra, vous le coltiner, excusez-moi l'expression, il faudra l'avoir tout le long de notre vie. Et ce vieil homme, ne vous inquiétez pas, ne sera jamais spirituel, le vieil homme, il sera toujours vieil homme. Ça sera toujours le mauvais moi en chacun de nous, il sera toujours animé par la chair. Et un chrétien, enfin un homme, où il est naturel, où il est spirituel, où il est charnel. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 2. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, Paul, est-ce qu'ils étaient bien les chrétiens de Corinthe ? Ils étaient bien les chrétiens de Corinthe ? Monsieur Olé, vous auriez voulu être pasteur à Corinthe ?
Monsieur Roulet, il répond toujours bien. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 14. 2, verset 14. Dans les quelques versets que nous allons lire, nous voyons que l'apôtre résume les trois possibilités. Premièrement, il parle de l'homme naturel. 1 Corinthiens 2, 14. Vous y êtes ? 1 Corinthiens 2, 14, il parle de l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas régénéré. Il a peut-être une religion, il est peut-être même évangélique, mais il n'a pas été régénéré. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il vaut mieux parfois éviter les discussions inutiles, croyez-moi. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. On le voit quand on discute avec quelqu'un qui commence à me dire « Mais non, c'est pas possible, Dieu n'a jamais dit ça. » C'est quelqu'un qui n'a pas été régénéré. Alors il est peut-être religieux, il a peut-être pris le baptême, mais il n'est pas régénéré. Quand quelqu'un conteste la parole de Dieu, moi je remets en question sa conversion, je vous le dis. Qu'il n'ait pas compris, ce n'est pas grave. Mais qu'il conteste et qu'il... D'ailleurs, il écrit « Malheur à l'homme qui conteste avec Dieu ». Car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, vous voyez, on passe de l'homme naturel à l'homme spirituel. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, pas condamne, hein, juger pas dans le sens de condamner les gens, juger dans le sens d'analyser. Il juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Voilà le reproche qu'il leur fait. Mais comme à des hommes charnels. Donc on est passé de l'homme naturel, l'homme spirituel, et maintenant on est dans le cadre de l'homme charnel. Comme à des enfants. Vous avez vu ? Paul a dû parler aux Corinthiens comme à des enfants, parce qu'ils étaient charnels. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Alors il donne un exemple. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel ? Ne marchez-vous pas selon l'homme ? Après, bon, il y a tout un tas. Enfin, l'épître de Paul aux Corinthiens, il ne fait que régler les problèmes qu'il y a dans l'église de Corinthe, pour qu'il les amène à être spirituels. Donc vous avez l'homme naturel, il n'est pas régénéré. Vous avez l'homme spirituel, il est rempli du Saint-Esprit parce qu'il marche par l'Esprit. Et vous avez le chrétien charnel, il est né de nouveau. Il est né de nouveau. Mais il marche selon l'âme, il marche selon la chair. Je vous donne un exemple. Un homme charnel, il analyse les choses avec ses émotions. On va parler de la bonté de Dieu. Vous savez, Dieu est bon. Ah, je sais que Dieu est bon. Et comme Dieu est bon, ça va bien se passer. Dieu est bon, il passera l'éponge surtout. Quelqu'un qui est bon, Dieu est bon. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de se convertir ? Dieu est bon, il veut que tous les hommes soient sauvés. Il est bon, le bon Dieu, il ne va pas nous laisser dans le pétrin. Il voit bien. Mais regardez avec moi, quelqu'un de spirituel, il va juger cette chose-là. Il va l'analyser. Regardez avec moi dans Romains. C'est pour que vous compreniez. Voyez l'homme charnel, bon, il croit en Dieu, il sait que Dieu est bon, puisque la Bible parle de la bonté de Dieu, mais ça, l'âme, ça lui va bien. Mais qu'est-ce qu'elle dit, la Bible, par exemple, par rapport à la bonté de Dieu ? Romains chapitre 2, verset 4. C'est pour ça que c'est impossible de devenir spirituel si on ne lit pas la parole de Dieu. Écoutez-moi, c'est le seul moyen pour devenir spirituel de lire et de méditer la parole de Dieu. Voyez, il y en a pas, vous n'en connaissez pas des chrétiens qui disent « Ouais, Dieu est bon, on s'en sortira, on verra bien, tout le monde sera sauvé. » On entend ça, mais moi je l'entends. « Oh, ben écoutez, il ne faut pas être si légaliste, si sévère. » Vous voyez, ils interprètent la vérité comme du légalisme. Ça vous montre combien l'âme, elle y comprend. Romains chapitre 2, verset 4, « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la quoi ?» Voyez la spiritualité ? Ça commence comme ça. « Ah, mais moi je pensais que comme Dieu était bon, on s'en sortirait tous. » Ça c'est notre âme qui nous fait croire que, voyez ? Mais un homme spirituel, il sait que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Et je vous donne un exemple, il faudra en prendre plusieurs, on le fera, là je ne peux pas le faire, sinon je ne pourrais... D'ailleurs, ce serait bien de faire une prédication qu'avec des exemples pratiques. Mais c'est pour que nous comprenions bien les choses. L'homme charnel, il ne comprend pas. Vous voyez, ils étaient jaloux, les chrétiens de Corinthe, il y en a un qui préférait tel pasteur, ils n'avaient pas compris que s'il y avait deux ou trois pasteurs, c'était une grâce de Dieu, et que les trois ne peuvent pas se ressembler. Vous voyez, voilà, mais il y avait de la jalousie, il y avait des disputes, ce qu'ils pensaient de tel pasteur, ça c'était important. Après, il y a ceux qui étaient pour Christ, qui étaient bien sûr très spirituels. Mais voyez, tout ça, c'est charnel. Tout ça, c'est charnel. Un homme spirituel dit, voilà, qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Eh bien, merci Seigneur, si tu as mis des pasteurs dans l'église, merci Seigneur. Il y en a un, c'est bien. Il y en a trois, c'est bien. Que ton nom soit béni. Ils ne peuvent pas se ressembler, c'est peut-être pas plus mal. Seigneur, merci. Quand quelqu'un est spirituel, il est dans cet état d'esprit. Et vous savez, si on est charnel, à la limite, on pourrait dire, bon, mais c'est pas si méchant que ça d'être charnel. Oui, mais c'est pas ça. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire comme Dieu le voudrait, parce que l'œuvre de Dieu, elle se fait par l'esprit. Je le répète, la chair, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il faut se poser la question, mais je marche comment cette semaine déjà, si on peut faire le bilan. Comment j'ai marché cette semaine avec Dieu? Est-ce que j'ai marché selon l'esprit? Est-ce que j'ai marché selon la chair? Comment mes pensées étaient-elles cette semaine? Mes pensées étaient-elles tournées vers Dieu? Mes pensées étaient-elles attachées à Dieu? Mes pensées se préoccupaient-elles de chercher le royaume de Dieu? Vraiment d'être sérieux avec Dieu? Ou est-ce que j'étais plus préoccupé par les choses de la terre? Par les soucis de la terre? Par les séductions de la terre? Est-ce que j'ai compris ce que ça voulait dire, offrir sa vie, ses membres, en sacrifice de justice? Les chrétiens ne comprennent pas. Parfois, moi, j'ai des entretiens avec des chrétiens, c'est comme si je leur parlais en patois, c'est pareil. Ils n'arrivent pas à comprendre, et pourtant, c'est que les balbutiements de cette vie de l'esprit. Heureusement que nous avons un Dieu qui va nous aider. Il va nous éclairer, le Seigneur. Je ne sais pas où vous en êtes. Est-ce que moi, je sais où j'en suis exactement? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, Dieu, il sait où nous en sommes, et il saura nous aider. Vous le croyez que Dieu va nous aider? Moi, je crois qu'il va nous aider. Franchement, il y a un combat. C'est une affaire terrible. C'est une affaire puissante. Le diable et le monde et notre âme veut que nous soyons maintenus dans la chair, veut que nous soyons maintenus dans la vie de l'âme, et pour nous empêcher de connaître la puissance et la véritable vie du Saint-Esprit. Ce que la Bible appelle la chair. Une petite précision, parce que là aussi j'entends de ces âneries, mais vraiment, vraiment des âneries. Ce que la Bible appelle la chair n'est pas forcément la partie physique charnelle de notre être. Ce n'est pas un péché d'être un être humain. Il faut faire la différence entre ce qui est humain et ce qui est charnel. Ce n'est pas non plus la vie sexuelle. Là aussi j'ai entendu ces bêtises. On peut avoir, dans le cadre du couple, on peut avoir une vie normale au niveau de la sexualité. Ce n'est pas parce qu'on a des relations sexuelles avec son conjoint qu'on est charnel. Si vous avez des relations sexuelles avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas marié, là, vous n'êtes pas charnel. Là, vous êtes perdu. Ce n'est pas pareil. Vous êtes perdu. Parce que vous êtes là dans le péché. Ce n'est plus dans les œuvres de la chair, c'est dans le péché volontaire. Et tenez-vous-y bien, c'est sérieux d'entendre ces choses. Si vous êtes marié, vous avez droit à votre relation intime avec votre conjoint. Si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas à avoir de relations intimes avec quelqu'un du sexe opposé. La chair, c'est la partie de notre être qui n'est pas renouvelée, je le répète. Elle n'est pas renouvelée, elle est tout le temps attachée à la terre, elle n'aime que les choses de la terre. C'est l'âme et le corps, ils sont contrôlés, c'est écrit, par la loi du péché. Et si l'Esprit de Dieu ne domine pas, eh bien c'est l'âme et le corps qui vont dominer. Car vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on est plus, même plus, dans le culte du corps qu'autre chose. Est-ce que vous comprenez? Vous avez certainement vu, peut-être même des émissions, vous êtes obligé des fois d'arrêter l'émission, compte tenu de la profondeur, de la façon dont c'est le corps qui dirige, c'est même plus l'âme, c'est le corps. Vous êtes d'accord? Regardez avec moi dans Romains au chapitre 8, dans Romains au chapitre 8, il y a une réponse. Il y a une des plus grandes réponses d'ailleurs par rapport à la vie de l'esprit qui est contenue dans ce chapitre. Romains chapitre 8, verset 1er, on va lire jusqu'au verset 4. Ce sont des textes, écoutez, moi je les médite et je les remédite pour vous aider à les expliquer. Et je peux vous dire que nous devons tous les considérer sérieusement. Le verset 1er, on le connaît bien. Celui-là, on le connaît bien. Romains 8, 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'est pas dit pour ceux qui vont à l'église. Attention. Qui sont en Jésus-Christ. C'est très sérieux cette affaire. Regardez la suite. En effet, la loi de l'esprit de vie, donc en Jésus-Christ, regardez bien, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi d'une autre loi, de la loi du péché et de la mort. On n'est plus dans le verset 24 du chapitre précédent. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on en a parlé. « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il fait allusion à cette époque où il était dirigé par son âme. Au chapitre 8, il fait allusion à sa vie maintenant qui est dirigée par le Saint-Esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et vous avez tout un chapitre qu'il faut lire, méditez-le cette semaine. Ne méditez que le chapitre 8, vous ferez d'énormes progrès, croyez-moi, de comprendre ces choses-là. La loi du péché et de la mort, elle agit dans la chair. Et si c'est votre âme qui décide, vous êtes charnel. Ça ne peut pas être autrement. Par contre, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, elle agit dans notre esprit régénéré. Et il faut savoir qui c'est qui dirige. Paul a pris la victoire. Il a l'esprit de vie, la loi de l'esprit a pris la victoire sur la loi du péché et de la mort. C'est son esprit qui dirige. Il est rempli du Saint-Esprit et il domine. C'est la loi du péché, c'est une force. C'est une force, vous le savez. C'est une loi. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas avec détermination. J'arrête de faire ça. J'arrête. Vous croyez que vous allez y arriver? Je vais aller voir un psychologue. Je ne vais pas en parler ce matin, j'en parlerai une autre fois parce que je veux bien l'expliquer. La psychologie s'occupe de l'âme. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Mais la psychologie ne vous donnera pas des victoires spirituelles. Même les psychologues chrétiens le disent. Mais en plus, aujourd'hui, on fait fine bouche, on dit si tu vas voir un psychologue, va voir un psychologue chrétien. Bon, moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre, mais ça ne règle pas les problèmes spirituels. Ce n'est pas un psychologue qui règle les problèmes spirituels. C'est le Saint-Esprit qui règle les problèmes spirituels. Mais ça, c'est vraiment le béaba, mes frères et sœurs. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On y reviendra là-dessus, c'est trop important pour le bâcler en 2 minutes. La loi de l'esprit de vie, elle est puissante. C'est comme, on peut prendre l'exemple, j'avais lu ça dans un livre, très bien d'ailleurs, c'est comme la force d'attraction. Un avion, il est cloué au sol par la force de, comment on appelle ça, de gravitation. Par la gravitation. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une loi, la gravitation. C'est une loi. Si je prends le livre, je peux dire, bon, le livre, je ne veux pas qu'il tombe. Je ne veux pas qu'il tombe. Seigneur, que le livre, il reste à 1,50 m du sol. Est-ce qu'il va rester? Non. Je peux avoir la foi tant que je veux, c'est ridicule. Vous comprenez ce que je veux dire? Je peux dire, Seigneur, c'est quand même un cantique chrétien. Seigneur, s'il te plaît. Qu'il reste à 1,50 m. Il y a une loi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si je laisse tomber le livre, je ne le fais pas. Vous savez, il va tomber. C'est une loi. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas la changer. Ce sont des lois. Un avion, il restera cloué au sol. Pour qu'il puisse décoller, il faut une loi plus forte que la loi de la gravitation. C'est la loi de la poussée. Il faut que cet avion prenne une certaine vitesse. Et des avions qui font des centaines de tonnes, je ne sais pas combien fait un A380. David, ça fait combien un A380 rempli? Combien? 380 tonnes? Ouais. Vous vous rendez compte? 400 tonnes, ça représente plus de 400 voitures dans le même bloc qui peuvent décoller. Pourquoi? Parce qu'il y a une force plus puissante que la force de l'attraction. C'est la force de la poussée. C'est exactement pareil. L'image, elle est bien sûr, elle est scalée. Mais c'est ça. Il y a une force plus puissante que la loi de la chair. C'est la loi de l'esprit. Alléluia. Et je voudrais que nous commencions maintenant à rentrer vraiment dans le vif du sujet pour que nous comprenions bien que la vie de l'esprit, elle est possible. Mais elle n'est pas possible avec la chair. La chair, elle ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Regardez le corps. Le corps tant qu'il... Vous croyez que le corps comme ça, il peut aller dans le ciel? Mais bon, on pourrait l'expliquer, c'est facile. Un corps comme le nôtre, si sophistiqué, vous pouvez mettre les crèmes que vous voulez, il ne peut pas rentrer dans le ciel. Le corps, il faut qu'il revête l'incorruptibilité et l'immortalité. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des choses sérieuses. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont tellement charnels. Ils ont tellement compris que, voilà, c'était bien. Les gens, il faut être gentil. Le Seigneur, il n'a pas dit. Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit soyez gentil? Soyez gentil, soyez sympa. C'est pas ça la vie. La Bible dit soyez spirituel. Si quelqu'un vous dit oui, la bonté de Dieu, le bon Dieu, et il le sait, il m'aime, le bon Dieu. La bonté de Dieu, on l'a lu, elle nous pousse à la repentance. Ça serait bien que je prenne d'ailleurs une étude un soir et que je prenne une 20aine de versets pour vous expliquer la différence entre les sentiments et le spirituel. Puisque la parole de Dieu vivante sépare ce qui est de l'âme et de l'esprit. Donc c'est important ces choses-là, mes frères et sœurs. Si nous marchons par l'Esprit, nous dominons. C'est ce qu'il dit, vous régnerez dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Si notre âme domine, eh bien c'est la chair qui régnera dans l'Église. Et voilà, et c'est pour ça que dans les églises, on ne voit presque rien. On se dit, mais pourquoi on ne voit pas des choses se passer? On aime le Seigneur, on prie pour qu'il y ait des miracles. On peut continuer, c'est pas interdit. C'est certainement peut-être même un moyen pour être plus près du Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? J'en parlerai quand j'expliquerai le jeûne et la prière, que ça peut être aussi un piège. Mais c'est quand même aussi des moyens extraordinaires pour nous approcher du Seigneur. Mais c'est pas ça qui crucifiera la chair, croyez-moi. Si vous avez suffisamment jeûné, vous savez bien que c'est pas ça qui crucifie la chair. Si l'on continue à marcher par la chair, après la nouvelle naissance, ce que Paul explique aux Corinthiens, eh bien, notre esprit sera emprisonné et l'œuvre de Dieu ne se fera pas. Dieu fera reposer sa grâce malgré tout. Car on peut tous dire quand même que même si on n'est pas arrivé là où Dieu voulait, Dieu a fait reposer sa grâce sur nous. Que son nom soit béni. Non ? Et il faut dire amen, hein, il y a des fois. Même si on n'a pas été trop bon, Dieu nous a bénis, mes frères et sœurs. Et si on est fidèle aujourd'hui, c'est vraiment l'effet de sa grâce, croyez-moi. Parce que si Dieu avait dit, écoutez, ça va se passer comme ça maintenant. Avec tout ce que j'ai subi à la croix, on va changer la donne. Il pouvait le faire, on ne réalise pas. Maintenant, je vous bénirai quand vous serez remplis du Saint-Esprit. Je vous bénirai, écoutez, vous allez comprendre. Hein. Je vous bénirai quand vous marcherez selon l'Esprit. Est-ce qu'il aurait pu le faire? Mais bien sûr qu'il aurait pu. Mais on ne réalise pas la miséricorde de Dieu. Mais ce n'est pas parce que Dieu est patient, miséricordieux, longanime, comme on l'a lu. Ce n'est pas parce que Dieu est. Et cela que l'œuvre de Dieu va se faire n'importe comment. L'œuvre de Dieu, elle ne peut que se faire par l'Esprit. Et si nous marchons par la chair, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, nous ne serons pas différents des païens. Et il y a une dame qui est venue l'autre jour, une nouvelle dame qui découvrait l'Évangile. Elle a vu une personne de l'Assemblée. Elle vient dans votre église, cette femme? Oui. Elle est chrétienne? Je dis, je ne sais rien. Eh bien, dites donc, j'espère que. Elle va vraiment donner son cœur à Dieu. C'est une chrétienne. Elle se dit chrétienne. Mais elle marche comme les païens. Ah, c'est sûr que ça nous met un coup à notre orgueil. Moi, je vous le dis. Bien sûr que j'ai honte. Mais je ne vais pas ne pas dire les choses. Cette personne marche selon la chair. Elle vient, elle prie, tout ça. Moi, j'ai vu une dame. Voyez, je vous donne ce témoignage. C'est pas bien, hein, mais je vous le donne. C'est une dame qui découvrait l'Évangile. Elle venait d'un mouvement baptiste. On peut le dire, c'est bien. Elle venait d'un mouvement baptiste. Elle cherchait la vie de l'Esprit. Est-ce que c'était bien? Ben oui. Elle voulait le baptême du Saint-Esprit. Elle est venue, j'ai eu deux ou trois contacts avec elle. Elle a cheminé, elle a vraiment fait une expérience avec le Seigneur. Et puis un jour, il y a une sœur dans l'église qui a proposé de la ramener chez elle en voiture. Et quand elle est arrivée dans un feu clignotant, il y a une personne qui lui a pas cédé la priorité à droite, et la sœur baptisée du Saint-Esprit, qui parlait en langue tout le long de la réunion, a levé le poing, ouais, celui-là, je vais y casser la figure. Elle m'a appelé en arrivant à M. Gourde, je me dis, je suis profondément choqué de cette personne qui est baptisée du Saint-Esprit. Moi, voyez, je n'ai jamais dit ça. Jamais je n'ai fait ça. Je suis baptiste, mais le jour où j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai tout le temps eu du respect, malgré les gens qui conduisaient mal. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit, M. Gault. Voilà. Alors, on ne va pas juger la sœur, on ne va pas la juger. Mais vous comprenez bien ce que je vous explique depuis des mois, ce n'est pas parce qu'on parle en langue qu'on marche par l'Esprit. Ben, c'est facile à comprendre quand même. Ce n'est pas, est-ce que parce que je prêche, je suis spirituel? Bien sûr, il n'y a que ma femme qui le sait. Eh ouais, c'est à la maison qu'on sait si on est spirituel. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que parce que je prêche, vous avez la preuve que j'obéis à Dieu? Mais non, il n'y a que Dieu qui sait. Ce n'est pas parce qu'on fait certaines choses qu'on est spirituel. Et ça, c'est des choses qu'il faut absolument dire. Et si nous marchons selon la chair, nous ne serons pas différents des païens. Tout ce que je dis, c'est pesé. Je n'ai pas besoin de me prouver quoi que ce soit. Mais c'est parce qu'on l'a lu. Vous ne devez pas marcher comme les païens. Quand on marche par la chair, il n'y a pas beaucoup de différence. On a l'intelligence obscurcie, on est étranger à la vie de Dieu. Bien sûr qu'on connaît le Seigneur et on est bouleversé par la croix, mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Eh bien non, pas suffisamment en tous les cas. Il y a beaucoup d'ignorance, ça ne vient pas de vous, ça vient de nous les pasteurs, qu'on n'a pas fait notre travail. Il y a beaucoup d'endurcissement, etc. C'est ce qui justifie le titre de ma prédication. Comment avez-vous appris Christ? Comment je l'ai appris? On est là sous le regard de Dieu, mais comment j'apprends Christ? Qui est-ce qu'il est pour moi? Est-ce que c'est juste le sauveur du calvaire? Est-ce que c'est juste le rédempteur? Ou est-ce que c'est vraiment mon maître? Est-ce que c'est vraiment le Dieu qui dirige ma vie? Comme on a pris le deux versets sur la bonté. Qui dirige ma vie? Parce que je suis chrétien de l'église de Pentecôte, je suis un bon chrétien. Non mais écoutez, c'est du cinéma ça. Et il y en a qui le pensent, on l'a entendu dans des pastorales. Que le mouvement de Pentecôte, on était les meilleurs. Mais ça c'est plus que charnel ça, vous voyez. Que Dieu nous pardonne d'avoir dit des âneries pareilles. La chair, elle ne comprend rien. Si vous ne comprenez rien, c'est normal. C'est que vous n'êtes pas converti. Je vous le dis sérieusement. Je ne dis pas, ce n'est pas du mépris, c'est pour vous aider à prendre conscience de votre éternité avec Dieu. La chair, elle ne comprend rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. J'ai regardé dans la version Darby, il est dit « la chair ne profite de rien ». La chair ne profite pas des choses spirituelles. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont découragés. Ils font des choses, ils les font, mais ils les font charnellement. Allez, on va faire ça. Tiens, on va faire une friperie. Je parlerai la prochaine fois des œuvres sur mon dimanche. On va faire ça. Ça peut être le résultat de la vie de l'esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Ça peut être le résultat quand même de la volonté de Dieu. Mais si on fait ces choses parce qu'il faut faire quelque chose, parce qu'il faut bien faire quelque chose, il faut bien faire quelque chose, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Alors on fait les choses de sa propre initiative, mais ces choses que l'on fait par la chair, elles ne nous profitent à rien parce qu'elles sont faites avec notre intelligence, avec notre âme. Quand ça vient de Dieu, vous croyez que ça nous fatigue? Moi je ne le crois pas. Regardez encore dans Romains au chapitre 7. Romains chapitre 7, verset 5. On va lire le verset 5 et 6, Romains 7. Je vous encourage à lire Romains 5, 6, 7 et 8. C'est vrai que c'est des chapitres compliqués. Mais vous les lirez, vous les lirez, vous les relirez, et vous verrez que les choses finiront par s'éclairer. Romains 7, verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, en sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Vous voyez, il explique cette loi de la chair, cette loi de la mort et cette loi de l'esprit. Regardez au verset 25, la fin du verset 25. Juste la fin, parce qu'on n'a pas le temps, je vois que l'heure tourne. Tout à fait la fin. Je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est pour ça qu'on peut faire tout ce qu'on veut, on n'arrive pas. Parce que c'est comme l'affaire du livre, c'est comme l'affaire de l'avion, c'est une loi. La Bible ne parle pas du péché, elle parle de la loi du péché. Est-ce que vous comprenez? C'est une loi. Et si le chrétien marche d'une manière charnelle, il est emprisonné dans une loi qui est irrévocable. Elle ne peut pas changer, cette loi, mes frères et sœurs. C'est pour ça que les églises ne vivent pas ce que l'on devrait vivre. Alors je vous donne quelques lectures, je n'ai pas le temps de... Pour ceux qui prennent des notes, il vous faut les lire, ces textes. Il faudrait qu'on les lise. Mais... Dans Romains 8, 3 à 8, je vous les donne parce que je les ai quand même eu à cœur pendant que je me suis préparé. Romains 8, 12 à 13. 1 Corinthiens 15, 50. Galates 5, 17. Abrégé, Galates ça s'écrit G-A-L. Abrégé. Éphésiens 2, 3, en plus c'est mon fils. Éphésiens 2, 3. Éphésiens ça s'écrit E-F-H. Éphésiens 2, 3, 1 Jean 2, 16. Non, je ne vais pas trop vite. C'est vous qui allez passer vite. Madame Chapeau. Romains 8, 3 à 8. Je vous les donnerai après. Je vous donnerai après. Les pensées de la chair, les désirs de la chair sont ceux du monde et de Satan. C'est pour ça que nos pensées doivent être renouvelées. Quand Pierre dit à Jésus, qui est en train de leur expliquer qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, il était en train de leur dévoiler l'œuvre de la croix. Il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des sacrificateurs, des anciens, des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Est-ce que ça, c'était la pensée de l'esprit? Oui. Vous savez comment Pierre a réagi? Lui qui venait de s'entendre des louanges par Jésus. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je ne sais pas s'il a regardé les autres en disant, vous avez vu les gars, moi... Tu peux répéter, Seigneur,
S'il te plaît. T'as pas entendu si, mais les autres. Et Jésus se met à leur parler de la croix. On va voir la puissance de la croix. On y arrivera, je vous assure, c'est merveilleux. Jésus se met à dire, voilà ce qui va arriver. Je vais aller à Jérusalem. Je vais souffrir. On va me crucifier. Et le troisième jour, je ressusciterai. Et Pierre, plein d'élan, dans une chair vivante comme jamais, va dire à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas ou jamais. Il a dû se dire, je vais encore entendre un éloge. Et le Seigneur va lui dire un truc de folie. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Et là, il associe la pensée du diable avec la pensée des hommes, mes frères et sœurs. Et c'est très intéressant pour nous. Parce qu'il y a des pensées charnelles, elles peuvent... Vous voyez, il le faisait pour qui, Pierre? Pour qui il le faisait? Est-ce que c'était par amour qu'il le faisait? Oui. Et bien sûr qu'il le faisait par amour. Mais voyez, ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose par amour que c'est spirituel. Est-ce que ça vous éclaire un peu? Et oui, voyez mes frères et sœurs, la seule solution, c'est que nos pensées soient renouvelées. Il faut comprendre l'œuvre de la croix. Pourquoi tant de chrétiens sont découragés quand ils regardent les informations? Mais ne les regardez pas les informations, si ça doit vous décourager. Ça va empirer. C'est écrit ou c'est pas écrit que ça va empirer? La colère de Dieu, elle va s'atténuer ou elle va augmenter? Eh bien alors, ne regardez pas les informations. Ne dites pas, je prie pour qu'il n'y ait plus de persécution. Écoutez, moi, je suis désolé. Moi, je prie pour que les persécutés soient soutenus. Je prie pour que les persécuteurs se tournent vers Dieu. Je prie pour que Dieu fasse grâce, etc. Mais c'est un des signes de la fin des temps. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si quelqu'un priait, Seigneur, je prie parce que tu es puissant, qu'il n'y ait plus de tremblement de terre. Il y en aura de plus en plus, et des grands. C'est prophétisé. Et nous avons besoin, c'est pour ça, sans la parole de Dieu, je vous le dis, sans la parole de Dieu, c'est impossible. Impossible d'y arriver. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme et de toute notre pensée? Pourquoi? Parce qu'il faut que nos pensées soient renouvelées. Et quelqu'un qui lit la Bible, ses pensées sont renouvelées. Cette semaine, il y avait dans les informations, ça m'a marqué, parce que les pasteurs le disent, les gens ne font pas attention. Là, c'était un psychologue qui en parlait. Il était interviewé par rapport aux heures que les jeunes passent sur Internet. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, l'internaute est un esclave. Si vous passez plusieurs heures devant Internet, il l'a dit, vous l'avez entendu. L'internaute est un esclave et l'ordinateur est le maître. Et il dit celui-là, vous l'avez entendu? Et les gens, ils le croient. Mais les chrétiens, eux, non. Ils sont capables de maîtriser ça. Si vous passez des heures sur Internet, votre âme est nourrie de ces choses qui vous dominent. Vous êtes dominé par ces choses. Ne dites pas, moi, je suis fort. Non, c'est obligé. C'est une loi. Quand je vois ces jeunes chrétiens qui passent des heures à ces jeux de violence, mais on tue les gens, mais c'est virtuel, c'est des jeux. Vous nourrissez de violence. Vous croyez le gérer? Et un jour, excusez-moi l'expression, ça pétera. Ouais, ne riez pas. C'est sérieux. Un jour, ça agira. Parce que on devient en fonction de ce qu'on est nourri. Et on ne prend pas ces choses au sérieux. Le psychologue va le dire, on va le croire. Parce que justement, on dépend de notre âme. Mais le prédicateur va le dire, c'est un légaliste. Mes frères et sœurs, nous sommes ce que sont les pensées de notre âme. C'est écrit dans le Proverbe 23, verset 7. L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Et il faut bien comprendre où nous renonçons à ces choses qui sont de la vieille nature et où nous nous revêtons des choses spirituelles et nous deviendrons spirituels, mais ne pensons pas que la puissance de Dieu se manifestera, car elle ne peut se manifester que par le Saint-Esprit si nous sommes charnels. Nous pouvons parler en langue et nous avons raison de continuer à le faire. Mais la puissance de Dieu ne se manifestera pas parce qu'on parle en langue. La puissance de Dieu se manifestera parce qu'on marchera par l'Esprit. Les 3000 âmes ne se sont pas converties parce qu'ils ont entendu les gens parler en langue. Ils se sont convertis parce que Pierre était rempli du Saint-Esprit et qu'il a prêché la prédication de la croix. Les conversions ne viennent qu'à la prédication. Croyez-moi. Et tout ça, c'est sérieux. Et nous devons prendre la parole au sérieux. Oh, moi, je ne lis pas, je n'ai pas le temps de lire la Bible. Mais par contre, tu as le temps d'en faire des choses à côté. Eh bien, prends le temps de lire les choses. Mais tu seras un obstacle à la bénédiction du Seigneur. Tu seras un obstacle. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut en faire une affaire sérieuse, joyeuse. Parce que je crois qu'il n'y a pas de plus grande joie que d'être rempli du Saint-Esprit. Là, je l'ai présenté à la fin d'une manière sévère, parce que c'est grave. Mais croyez-moi, est-ce que vous pensez qu'il y a un homme plus heureux sur la terre que celui qui est pleinement rempli du Saint-Esprit ? Non. Il ne peut pas y avoir de plus grande joie que d'être rempli du Saint-Esprit. Et d'être une source de bénédiction. Il faut que Dieu nous éclaire. J'ai pris beaucoup de temps ce matin. Mais mes frères et sœurs, je n'ai dit que l'introduction encore de ce que je veux vous expliquer. Parce que c'est trop sérieux. On va fermer les yeux quelques instants. On a un petit quart d'heure encore devant nous. Monsieur de Dieu Norbert, s'il vous plaît. Choisissez des frères pour la Sainte Cène. Venez sur le devant. Mes frères et sœurs, répondons à cette prédication. Si vous marchez par la chair, vous mourrez. Il n'y aura pas de vie. Il y aura la grâce de Dieu. Oui, il y aura la grâce de Dieu. Il y aura sa bonté, sa miséricorde, sa faveur. Il bénit les méchants, il bénit les bons. Ne vous inquiétez pas, même si vous marchez selon la chair, Dieu vous fera grâce. Mais la puissance du Saint-Esprit ne se manifestera pas. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. L'œuvre de Dieu, elle se fait avec des chrétiens spirituels. Elle ne se fait pas avec des pentecôtistes traditionalistes. Elle se fait avec des pentecôtistes ou des baptistes ou des protestants ou je ne sais rien, avec des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, nés de nouveau, qui obéissent au Seigneur. Voilà comment l'œuvre de Dieu se fait. C'est pour ça que je voulais prendre la Sainte-Cène après. Vous pouvez déjà vous lever si vous voulez à votre place. Vous qui êtes baptisés, vous pouvez vous lever et répondre à cette prédication dans le silence de votre cœur. Dire mais où j'en suis, qui c'est qui me domine? Je m'adresse aux jeunes, est-ce que vous vous rendez compte? Les heures que vous passez devant Internet, si vous les passiez devant Jésus, rendez-vous compte la ferveur que ça générerait dans l'Église, la puissance dans la prière que ça générerait.